Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été. On est ensemble jusqu'à 19h. Désescalade, c'est le terme qui s'est imposé depuis hier dans les médias à propos de la crise entre les États-Unis et la Corée du Nord. Pyongyang a en effet annoncé mettre sur pause son projet de tir de missile sur l'île américaine de Guam, une décision aussitôt saluée par le président américain, qui l'a qualifié de sage et raisonnée. Alors, un tel dénouement était-il prévisible alors que les deux dirigeants se promettaient encore le feu et la destruction ces derniers jours? Oui, nous disent les spécialistes, car au fond, les confrontations entre Pyongyang et Washington ne sont pas nouvelles, même si elles s'en tiennent généralement au verbe, aussi fleuri et menaçant soit-il. Pour autant, les essais nucléaires et les tirs de missiles de la Corée du Nord restent une menace pour la région et potentiellement pour la planète. Le 7 août dernier, de nouvelles sanctions étaient adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU contre le régime. Une décision validée par la Chine, jusqu'ici plutôt conciliante envers son turbulent voisin. Alors faut-il y voir un début de changement de ligne de la part de Pékin, qui s'est plutôt évertué jusqu'ici à maintenir le statu quo, qui veut vraiment résoudre la crise nord-coréenne? C'est la discussion que nous aurons ce soir jusqu'à 19h avec trois invités. François Godemont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, directeur du programme Asie et Chine de l'European Council on Foreign Relations. Vous avez fondé Asia Centre, un institut de recherche indépendant, et vous êtes l'auteur notamment de « Que veut la Chine ?» C'était paru aux éditions Odile Jacob en 2012. À vos côtés pour discuter ce soir, Antoine Bandaz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, la FRS. Vous êtes aussi docteur associé au CERI, le laboratoire de Sciences Po, et puis vous êtes auteur avec Benjamin Descoings de « La Corée du Nord plongée au cœur d'un État totalitaire » paru aux éditions du Chêne en 2016. Et notre troisième invité est au téléphone depuis Séoul, en Corée du Sud. Il s'agit d'Alice Ekman. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on vous remercie particulièrement d'être avec nous ce soir puisqu'il est à peu près 1h du matin actuellement en Corée du Sud. Vous êtes donc responsable des activités Chine de l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Vous êtes actuellement chercheur invité à l'Asan Institute, un think tank coréen. Et puis vous êtes auteur de « La Chine dans le monde », un ouvrage à paraître à l'automne aux éditions CNRS.
North Korea, best not make any more threats to the United States.
La Corée du Nord ferait mieux de ne plus proférer de menaces envers les États-Unis. Elle pourrait se heurter au feu et à la colère d'une ampleur que le monde n'a jamais vue. Kim Jong-un a été très menaçant, au-delà de ce qui est acceptable. Et je le répète, ils se heurteront au feu, à la colère et à une véritable puissance comme le monde n'en a jamais vu jusqu'ici.
Un discours du président des États-Unis, c'était encore il y a très récemment, le 9 août dernier. Alice Ekman, comment cette montée des tensions ces dernières semaines entre les États-Unis et la Corée du Nord a-t-elle été perçue en Corée du Sud, là où vous vous trouvez actuellement?
Étonnamment, l'atmosphère ici est assez détendue, à la fois au sein de la population, à Séoul en général. Alors, il y a des différences de perception très fortes entre les générations. Les jeunes se préoccupent peu de la situation. Les personnes plus âgées, notamment celles qui ont connu la guerre de Corée ou celles qui se souviennent des attaques fréquentes de la Corée du Nord, attaques terroristes dans les années 60-70, sont elles plus inquiètes. Mais globalement, la situation est assez calme. Les gouvernements, il faut dire aussi que les gouvernements coréens successifs ont assez peu communiqué vis-à-vis de la population sur les risques et les gestes à adopter pour se protéger. Par exemple, concernant les zones refuges ou les masques en cas d'attaque chimique. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que non seulement l'atmosphère est détendue au sein de la population, mais elle l'est aussi au sein de la communauté de politique étrangère et de sécurité ici à Séoul, c'est-à-dire qu'au sein des think tanks coréens, y compris les spécialistes de la Corée du Nord, les spécialistes des missiles, les spécialistes des questions techniques, apparaissent au travail, bien sûr, mais assez peu préoccupés. C'est finalement business as usual. On peut expliquer ça par quatre éléments. Vous l'avez d'abord mentionné tout à l'heure, la menace est constante. Ils ont l'habitude de tests fréquents, même si aujourd'hui le rythme s'est accéléré.
On va détailler, pardon, je vous coupe Alice Ekman, simplement pour commencer un premier tour de table. On va détailler justement les raisons de cette non-inquiétude quelque part. Antoine Bondaz, est-ce que vous êtes étonné par le récit que nous fait Alice Ekman de la manière dont est perçue la montée des tensions, on va dire alors du coup verbales, entre les États-Unis et la Corée du Nord en Corée du Sud? Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque part un processus habituel, un cycle qu'on voit depuis plusieurs années, depuis 2006 peut-être, entre les deux pays?
Alors, il y a une certaine habitude des Sud-Coréens, mais de nouveaux facteurs. Un premier facteur est la nouvelle administration sud-coréenne qui a décidé de modifier en profondeur la politique intercoréenne de la Corée du Sud, marquant en cela un changement radical par rapport à la politique des conservateurs, non pas tant en arrêtant les sanctions, puisque la Corée du Sud appelle et a soutenu les sanctions internationales contre la Corée du Nord, mais en tout cas en appelant davantage au dialogue. Alors la grande question sera de savoir si la Corée du Nord accepte cette main tendue. Pour l'instant, elle ne le fait pas, pour une raison simple, c'est que la Corée du Nord considère que le problème nucléaire est un problème bilatéral avec les États-Unis et que d'une certaine façon, la Corée du Sud n'a pas à en parler. Un autre élément, c'est également que l'accroissement de la menace nord-coréenne ne concerne aujourd'hui pas tant la Corée du Sud, qui, encore une fois, vit sous la menace de la Corée du Nord, ne serait-ce que la ville de Séoul, qui se trouve à 50 km de la frontière depuis des décennies, mais la menace est de plus en plus vivée par les États-Unis, notamment du fait des essais de missiles intercontinentaux, le Hwasong 14, par la Corée du Nord au mois de juillet. Et donc vraiment la vraie nouveauté, en quelque sorte, ce mois de juillet et désormais, c'est que la perception de la menace du côté américain se concrétise du fait de la capacité de plus en plus appuyée de la Corée du Nord à avoir une capacité de dissuasion crédible vis-à-vis de Washington.
François Gaudemont, la désescalade finalement était prévisible, c'est-à-dire il était de toute façon improbable que la Corée du Nord et les États-Unis aillent plus loin que cette joute verbale où on l'a encore entendu il y a quelques instants, chacun se promettait le feu, la destruction par les armes.
Non, honnêtement, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que ce que la Corée du Nord réussit toujours à faire, c'est à surprendre. Et donc, d'habitude, elle annonce vaguement à l'avance qu'elle va se donner la liberté de procéder à des essais, mais elle n'en fixe jamais la date ni les modalités. On attend. Là, elle avait donné des précisions extraordinaires. Hein. La durée des vols, le point d'arrivée, les préfectures ou les districts japonais qui seraient survolés. Et puis voilà, elle fait marche arrière. Tout au moins, elle met en pause, ce qui est un petit peu différent, ces essais. Il y a là, vraiment, une tactique fondamentale de la part des Nord-Coréens qui est de toujours rester insaisissable et de toujours laisser, par conséquent, les autres parties dans le conflit se demander ce qui va arriver ensuite. De ce point de vue-là, je dois dire qu'ils y sont bien arrivés.
Alors, vous dites qu'ils sont particulièrement imprévisibles, mais néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas voir quand même une récurrence d'un espèce de jeu, de montée des tensions, ensuite ce qu'on appelle la désescalade? C'est quand même, entre guillemets, un jeu peut-être diplomatique régulier.
Ce n'est pas un jeu uniquement diplomatique. Il y a parfois eu des attaques. Prenez 2010, tout simplement, le bombardement d'une île appartenant à la Corée du Sud, un navire de guerre sud-coréen coulé. Il y a parfois eu des incidents violents sur la ligne de démarcation. Les infiltrations en Corée du Sud ne sont pas si vieilles. Mais c'est vrai que si le point de vue exprimé de Séoul est tout à fait exact, si vous êtes né en Corée du Sud, vous vivez depuis bientôt 64 ans avec ce voisin qui, d'une certaine manière, fait du chantage, mais avec une frontière pratiquement étanche. Donc, vous avez perdu de vue la menace. Et d'un point de vue plus expert, plus stratégique, je dirais qu'en effet, quand la Corée du Nord menace les États-Unis, au moins, elle a pour les Sud-Coréens l'avantage d'impliquer forcément les États-Unis dans le jeu. Alors que la grande crainte des alliés en Asie orientale des États-Unis, c'est d'être laissé tout seul. Là, les États-Unis étaient en première ligne, effectivement.
Alice Ekman, pour reprendre les explications que vous nous donniez tout à l'heure, le fait que la Corée du Nord s'en prenne directement aux États-Unis, c'est ce qui explique en partie le soulagement ou la relative quiétude des Sud-Coréens.
Oui, en fait, les menaces survolent Séoul, mais elles passent par Séoul. C'est avant tout entre Pyongyang et Washington, en tout cas c'est comme ça que c'est perçu ici. tout à l'heure un chercheur coréen spécialiste de la question nord-coréenne et qui travaillait auparavant avec la présidence précédente m'expliquait c'est un peu leur affaire avant tout. Il est difficile pour nous de maîtriser ce type de discours. Et si ça concerne un territoire physique en particulier, aujourd'hui, c'est avant tout Guam. Donc, aujourd'hui, la menace n'est pas ressentie physiquement sur le territoire coréen, même si, encore une fois, la surenchère verbale inquiète quand même, et notamment la partie la plus âgée de la population. Et puis, il faut aussi se rappeler que la Corée du Sud fait face à plusieurs risques et que l'attaque de missiles est un risque parmi d'autres. Et il y a des cyberattaques plus fréquentes et donc plus probables. Il y a aussi le risque d'attaques chimiques et bactériologiques. Donc c'est un risque parmi d'autres. Et ça relativise d'une certaine manière la perception du risque ici. Et comme disait tout à l'heure François Godemant, la Corée du Sud a fait face à des points de tension beaucoup plus forts au cours des dernières années. Il y a deux ans, en août 2015, deux soldats sud-coréens avaient été sérieusement blessés dans l'explosion de mines antipersonnelles à la frontière. Et ça, c'était perçu comme un pic de tension beaucoup plus important, en tout cas ici, par les experts sud-coréens.
Et que change pour vous l'arrivée de la nouvelle administration américaine, celle de Donald Trump, dans la stratégie des États-Unis vis-à-vis de la Corée du Nord? Est-ce que, quelque part, les déclarations va-t-en-guerre de Trump servent la Corée du Nord au sens où elles permettent d'alimenter une posture belliqueuse, Antoine Bondaz?
De ce point de vue, très certainement, les déclarations de Trump sont des éléments de langage idéaux pour la propagande nord-coréenne vis-à-vis de sa propre population. L'évolution avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, et on en a beaucoup parlé, c'est peut-être l'imprévisibilité d'une certaine façon également, non pas des États-Unis, mais en tout cas du président américain. Non pas tant qu'il souhaite être imprévisible, mais peut-être que la machine à Washington, la machine notamment au sein de la Maison-Blanche, avec le système du Conseil national de sécurité, des conseillers qui historiquement préparaient des discours, des éléments de langage, semble un peu enrayée, et qu'on a aujourd'hui une sorte de cacophonie au sein même de la Maison-Blanche et de l'administration Trump. Vous avez le directeur de la CIA qui va souligner qu'un changement de régime serait possible en Corée du Nord, et puis deux jours plus tard, le secrétaire d'État Rex Tillerson qui va dire exactement l'inverse. Et donc ça, je pense que c'est une nouveauté côté américain.
Est-ce que ça sert la Corée du Nord?
Alors, c'est utile peut-être pour la rhétorique, encore une fois, et la propagande nord-coréenne. Est-ce que c'est si utile pour la Corée du Nord? Peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que côté américain, il faut quand même relativiser ce qui est présenté comme la folie du président ou l'irrationalité du président Trump. Rien ne dit que la communication du président signifiait que derrière, il souhaitait qu'il y ait un conflit ou qu'il souhaitait, par exemple, qu'il y ait des frappes. Et là, il faut bien dissocier la communication du président et peut-être les directives qu'il avait pu donner à droite ou à gauche. Ce qui fait que rien ne dit que le président Trump avait prévu ou avait même étudié sérieusement la possibilité de frappes préventives sur la Corée du Nord. Dans tous les cas, aujourd'hui, ces frappes préventives seraient sûrement ne permettraient pas, en tous les cas, de neutraliser le programme nucléaire et balistique nord-coréen et entraînerait un risque de conflit majeur aux conséquences désastreuses pour les États-Unis, pour la Corée du Sud, mais aussi pour la population nord-coréenne, puisque la Corée du Sud et la population nord-coréenne ont un peu été les oubliés ces dernières semaines, puisqu'en cas de conflit, ce seraient quand même les deux principales victimes.
Alors, on a vu de manière étonnante le dirigeant nord-coréen en appeler à la responsabilité des États-Unis. Il y a là une inversion un peu de rôle assez étonnante, François Godemant.
Oui, je crois quand même qu'il faut se rappeler les données. On sort de 8 ans de présidence Obama et d'une administration qui n'a jamais vraiment tracé de ligne rouge devant le comportement nord-coréen. De facto, ces 8 années ont été 8 années d'avancée considérable du programme nucléaire et balistique, avec certes un certain nombre de contraintes. Il fallait avoir un accord universel impliquant la Chine et la Russie à l'ONU, donc des sanctions finalement assez faibles, d'une applicabilité très variable, avec des clauses permettant d'y échapper, en particulier pour la Chine sur certains points. Les républicains ont toujours été très critiques de cette attitude. Et ils sont là derrière Donald Trump. Donc il ne faut pas uniquement considérer les tweets de Donald Trump, encore que ceci me rappelle personnellement la théorie du fou telle que l'avait énoncée Henry Kissinger à l'époque de Richard Nixon et qui avait été effectivement appliquée vis-à-vis du Vietnam avec les bombardements de Hanoï à Noël 72 ou 73, si ma mémoire est bonne. Donc, quelque chose d'ailleurs qu'un dirigeant assez violent et imprévisible comme Kim Jong-un peut comprendre parfaitement, peut-être mieux qu'une opinion publique d'ailleurs. Et donc, moi je suis quand même amené à constater que là, les Nord-Coréens viennent au minimum de mettre en pause leur projet, au maximum de reculer. C'est quelque chose auquel n'était pas parvenue l'administration Obama. Comment on passe de ça à l'étape suivante, sachant que la Corée du Nord, en général, n'applique pas les accords qu'elle a signés ou applique le premier 1% et trouve aussi une raison de s'en détacher, c'est une autre affaire. Les Américains sont-ils crédibles dans leur menace d'emploi de la force? Peuvent-ils entraîner la Chine? Ça, ce sont d'énormes questions qu'on a devant nous.
Alice Ekman, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse selon laquelle c'est quelque part le laxisme, si je vous comprends bien, François Godemans, de l'administration Obama et la stratégie des sanctions qui n'a pas fonctionné?
Ou plus précisément, et comme le disaient des interlocuteurs russes que j'ai pu rencontrer, l'administration Obama était prévisible, trop prévisible, ajoutait-il.
Qui serait donc responsable aujourd'hui de l'avancée assez spectaculaire de l'équipement de la Corée du Nord concernant les missiles nucléaires. Alice Ekman.
Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la Corée du Sud est en période de questionnement stratégique, on pourrait dire. C'est un questionnement qui n'est pas nouveau, mais qui s'est renforcé rapidement compte tenu de plusieurs sources d'incertitudes. Tout d'abord, l'élection de Donald Trump, qui change en effet la donne. Alors ça peut être perçu, comme disait François Godemans, comme une manière d'imposer ou de marquer une ligne rouge, mais ça peut aussi être perçu à Séoul comme une réelle source d'incertitude compte tenu du flou qui entoure sa politique asiatique. Ensuite, le questionnement stratégique émerge dans un contexte de crise politique nationale ici à Séoul, puisqu'on est seulement quelques mois après la destitution de la présidente Park Geun-hye, et aujourd'hui une nouvelle administration, un gouvernement d'alternance qui se met en place et qui définit peu à peu sa politique étrangère, notamment sa politique intercoréenne. Et puis, bien sûr, l'augmentation de la menace nord-coréenne qui accélère le rythme des tests. Mais ce qui est intéressant vraiment de cerner, c'est qu'aujourd'hui, la question suivante qui se pose aujourd'hui à Séoul, comment se protéger, comment se défendre? Alors, il y a bien sûr la question du bouclier antimissile SAD, dont une partie a été déployée. Donc, c'est un bouclier antimissile américain. Une partie a été déployée sur le territoire sud-coréen. Mais il se pose également la question de l'arme nucléaire. La Corée du Sud doit-elle développer ses propres capacités nucléaires? C'est une vraie question, aujourd'hui récurrente, ici, dans les think tanks, dans les échanges avec les chercheurs coréens. Où doit-elle, la Corée du Sud, doit-elle réintroduire les armes nucléaires tactiques américaines sur son sol, sur le sol coréen? Le parti d'opposition vient de se déclarer aujourd'hui formellement en faveur d'une telle réintroduction. Donc c'est deux arguments, à la fois l'argument en faveur du redéploiement d'armes nucléaires tactiques américaines sur le sol coréen et celui d'un armement nucléaire propre à la Corée du Sud. Ces deux arguments gagnent réellement du terrain à Séoul aujourd'hui. Alors que de nombreux experts et officiels coréens considèrent que leur pays n'est pas assez préparé pour faire face à la menace nord-coréenne.
Alors justement, sur la menace nucléaire de la Corée du Nord, Antoine Bondaz, il semblerait aujourd'hui que la Corée du Nord ait de facto rejoint le club des puissances nucléaires. Est-ce que ça veut dire qu'on est resté un peu trop longtemps dans l'idée qu'il n'y parviendrait pas et on a pris du retard quelque part dans l'intégration de cette nouvelle donne?
La Corée du Nord est effectivement aujourd'hui une puissance nucléaire de facto. Est-ce qu'elle l'est depuis le mois de juillet ou depuis quelques années?
On a évidemment
pas forcément
des incertitudes
depuis le mois de juillet. Pour revenir très rapidement sur cette question, mais ce qui a permis à la Corée du Nord d'avancer, il y a bien évidemment, et comme le disait le professeur Godemans, la stratégie de Barack Obama qui n'a pas empêché la Corée du Nord d'avancer sur son programme nucléaire et balistique.
Donc vous le rejoignez sur cette idée que c'est d'une mauvaise stratégie qui a été mise en place par l'administration Obama.
Encore une fois, si l'objectif était de dénucléariser la Corée du Nord ou de geler le programme, c'est un échec. Si l'objectif était peut-être de le freiner quelque peu, on ne saura jamais si ça a été une réussite. Mais pour ce qui est du côté nord-coréen, il y a quand même eu une détermination totale pour développer ce programme nucléaire et surtout le programme balistique, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un en décembre 2011. Pour vous donner juste quelques chiffres, Kim Jong-il, son père, avait réalisé 16 essais balistiques entre 1994 et 2011. Son fils, Kim Jong-un, en a réalisé 80 entre avril 2012 et aujourd'hui. Il y a, côté nord-coréen, la multiplication des sites de lancement. Auparavant, il y avait deux sites principaux d'essais balistiques. Aujourd'hui, il y en a plusieurs, quasiment une douzaine de sites potentiels. Ce qui veut dire que la Corée du Nord opérationnalise sa capacité balistique en cherchant à entraîner des unités balistiques qui, en cas de conflit, seraient capables, donc, entre guillemets, de tirer des missiles. L'objectif, encore une fois, est de prouver aux États-Unis que la Corée du Nord a une capacité crédible et qu'elle n'en est plus simplement à faire des essais technologiques pour savoir si on maîtrise ou pas la motorisation d'une fusée ou autre. À partir de ce constat-là, la Corée du Nord étant une puissance nucléaire, quel est l'objectif de la communauté internationale? Si l'objectif est une dénucléarisation, celle-là est impossible à court terme, que ce soit par une solution diplomatique ou par une solution militaire. Et c'est donc uniquement un objectif à très long terme. Et dans ce cas-là, la grande question qui se pose, c'est quelles peuvent être les concessions qui peuvent être apportées? Est-ce qu'il peut y avoir des intermédiaires, des médiateurs? Quels seraient les intérêts de la Chine ou des États-Unis, etc. Mais en tout cas, pour une dénucléarisation à très court terme, ça semble quasiment impossible.
François Gaudement, vous êtes d'accord avec cette idée, la dénucléarisation de la Corée du Nord, c'est totalement inenvisageable aujourd'hui?
C'est une question de rapport coût-bénéfice, si j'ose dire cyniquement. Et d'une certaine manière, Kim Jong-un nous met en face de la profondeur de nos convictions sur la contre-prolifération. Parce que bien sûr que c'est possible de l'arrêter. La seule armée conventionnelle sud-coréenne est beaucoup plus forte à terme que l'armée nord-coréenne. Elle encaisserait des coups, Séoul encaisserait des coups. Mais qui veut courir le risque d'une guerre qui ferait des centaines de milliers de morts? Les États-Unis veulent-ils vraiment intervenir pour mettre par terre un régime avec les conséquences que ça suppose sur les relations avec la Chine, sur l'avenir même de la péninsule? Donc, si j'ose dire, le régime nord-coréen, il perdure dans la provocation, mais aussi par défaut.
Vous voulez dire qu'on aurait les moyens de retirer quelque part à la Corée du Nord moyens nucléaires, mais qu'on n'accepte pas le coût d'une telle intervention?
On n'accepte pas le coût militaire, humain, et on a peut-être raison d'ailleurs de ne pas l'accepter. Mais on est face à une conséquence du coup, que si on passe de là, disons de l'existence de facto, comme vous le disiez, d'une puissance nucléaire, à la reconnaissance pratiquement déjurée, à la rupture dans le club nucléaire, c'est la fin du traité de non-prolifération. Je ne sais pas si vous y avez prêté attention, mais le Parlement iranien, au cours des tout derniers jours, a voté un doublement du budget alloué aux forces de missiles.
Suite aux nouvelles sanctions américaines.
Suite aux nouvelles sanctions américaines, on peut dire qu'il répond. Il y a toujours une logique action contre réaction. Mais c'est évident que l'effet d'entraînement d'un succès nord-coréen, après des années de sanctions inefficaces, d'entrer dans ce club, de voir les sanctions petit à petit levées contre des concessions qui ne changeraient pas grand-chose à cette réalité, c'est une catastrophe pour la non-prolifération.
C'est-à-dire que la Corée du Nord crée un précédent quelque part pour toutes les puissances émergentes qui aspirent à, elles aussi,
oui,
à pousser des larmes nucléaires.
Oui, et comme de surcroît, les pays qui ont dénucléarisé volontairement, leurs régimes ont souvent eu des ennuis. Ensuite, c'est même une leçon au carré, si j'ose dire. Ça veut dire qu'un régime jusqu'au boutiste a plus de chances de s'en tirer en allant jusqu'au bout de l'aventure nucléaire et balistique, qu'en se désistant au milieu du guet. C'est un peu la thèse d'ailleurs presque officielle des Nord-Coréens. Donc on est devant une situation qui est très très délicate. Quand vous regardez d'ailleurs le scepticisme effectivement des Coréens du Sud et disons de la population d'une partie de la classe politique japonaise vis-à-vis des États-Unis, c'est un mouvement de balancier extraordinaire. Quand les États-Unis s'engagent vers la détente, vers des concessions, on redoute dans la région qu'ils laissent tomber, entre guillemets, pour parler simplement, leurs alliés et leurs voisins. Mais quand les États-Unis durcissent leur position au point d'agiter des menaces de guerre, ce sont leurs propres alliés qui s'inquiètent, parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'une rupture de la situation de paix qu'ils connaissent. Et c'est de ce mouvement de balancier que la Corée du Nord tire son invulnérabilité pratique. Ça, et un régime très dur, bien sûr.
Antoine Bourdas.
Il y avait une dimension qui complique encore plus la dénucléarisation, c'est qu'il n'y a plus uniquement une dimension militaire au programme nucléaire et balistique nord-coréen. Il y a évidemment aujourd'hui une dimension politique. C'est-à-dire que les armes ont été constitutionnalisées, inscrites dans la Constitution en 2012, et elles permettent aujourd'hui de légitimer le régime, de renforcer l'autorité de Kim Jong-un, d'accroître la cohésion nationale en présentant le pays comme une puissance techno-nationaliste, etc. Et ce qui fait que même des garanties de sécurité américaines théoriquement, ne suffirait pas pour permettre de dénucléariser le pays. Est-ce qu'il complexifie ? Et bien évidemment, je suis d'accord avec le professeur Godman quand il explique que oui, il est possible de dénucléariser, mais le coût est inconcevable et inacceptable pour les démocraties américaines, coréennes et japonaises. Et le président sud-coréen l'a bien rappelé hier ou avant-hier en expliquant qu'il ne pouvait pas y avoir de frappe sur la Corée du Nord sans un accord de Séoul. Donc en se remettant dans le jeu, en essayant de bien rappeler que ce n'est pas uniquement une question entre la Corée du Nord et les États-Unis, et que la Corée du Sud et le Japon et même d'autres pays seraient aux premières loges en cas d'un conflit.
Alice Ekman, la Corée du Sud serait quelque part la première victime d'une dénucléarisation de la Corée du Nord, voire d'un effondrement du régime. Paradoxalement, quelque part.
Oui, enfin, je ne sais pas si on peut formuler les choses ainsi. La Corée du Sud, ils sont un peu pris en étau entre plusieurs grandes puissances et aussi un voisin complètement instable. Donc, voilà, la situation est difficile pour les dirigeants coréens, d'autant plus que la classe politique et la population sont très divisées sur l'attitude à adopter vis-à-vis de la Corée du Nord. Avant de venir ici, avant ces jours de recherche, je n'avais pas imaginé à quel point la classe politique sud-coréenne est divisée. Quand il y a alternance politique, il y a vraiment changement de politique vis-à-vis de la Corée du Nord. Mais il y a aussi un changement d'approche sur le diagnostic de la menace. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les conservateurs sont traditionnellement plus vigilants, mais aussi plus inquiets, et ont un diagnostic plus alarmiste sur vraiment le risque d'attaque, tandis que les libéraux, qui sont actuellement au pouvoir, se veulent plus rassurants. Et de fait, il n'existe pas de structure pérenne pour l'analyse de la menace nord-coréenne qui transcenderait le calendrier politique. C'est-à-dire que le diagnostic varie en fonction du gouvernement au pouvoir. Et donc, c'est cette division qu'on retrouve aussi au sein de la communauté des experts et des diplomates coréens et aussi au sein de la population.
Ce qui empêche donc, j'imagine, la formation d'une stratégie durable de la Corée du Sud, puisque si vous nous dites qu'à chaque changement de gouvernement, il y a une analyse différente qui est faite de la menace nord-coréenne.
Exactement, vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs options stratégiques, mais il est difficile de voir émerger une réelle stratégie. Bon, bien sûr, aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour faire un bilan de la toute nouvelle administration en place, mais il y a vraiment un problème de calendrier stratégique, c'est-à-dire la vision de long terme. Je me pose la question du calendrier nord-coréen. Ce sont des régimes d'influence soviétique qui planifient souvent plus loin que les démocraties qui sont vulnérables aux alternances. Et du coup, le rapport au temps est très différent entre le Nord et le Sud. C'est ce rapport au temps aussi qui est à prendre en compte dans les tensions qui animent la péninsule coréenne.
François Godman.
La Corée du Sud n'a pas de stratégie, indépendamment même des alternances. Avant Mme Park, il y avait eu le président Lee, qui était un conservateur pur jus, si j'ose dire, qui a commencé devant les défis nord-coréens et le soutien que la Chine donnait à s'opposer à la Chine. Puis, vers les deux tiers de son mandat, il a changé de fusil d'épaule, il s'est rapproché de la Chine. Madame Park a tout fait pour se rapprocher de la Chine et obtenir d'elle une solution. Au point de monter, si j'ose dire, dans le train de l'agitation anti-japonaise, parfois de façon caricaturale. Ça n'a rigoureusement rien donné. Aujourd'hui encore,
pourquoi
je suppose qu'on va ouvrir...
Comment on explique que ça n'a rien donné, cette stratégie ?
Soit parce que la Chine ne pouvait pas influer sur le cours de la stratégie nord-coréenne, soit parce qu'elle ne le voulait pas. Et les deux explications se confondent. On a très peu parlé de la Chine jusqu'ici, qui est évidemment le grand arrière, si vous voulez. Et donc, les Coréens sont en fait désemparés, parce qu'ils en sont aujourd'hui à regarder qu'est-ce que les Russes pourraient faire, par exemple, pour les aider à sortir de cette situation, alors que les Russes reviennent en force dans le soutien à la Corée du Nord.
France Culture. Du grain à moudre d'été, Mélanie Chalandon.
qui veut vraiment résoudre la crise nord-coréenne. C'est le débat que nous avons ce soir jusqu'à 19h avec François Gaudement, Alice Ekman et Antoine Bondaz. Alors justement, la Chine, je le disais tout à l'heure, début août, a voté avec les autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU une résolution visant à appliquer de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Est-ce que c'est une fermeté de façade quelque part, puisque on sait que la Chine a aussi l'art de contourner les embargos ou les sanctions qui sont appliquées à la Corée du Nord, ou est-ce qu'on a les prémices d'un début de changement de posture de Pékin vis-à-vis de la Corée du Nord? Antoine Bondaz.
Il faut rappeler que la Chine a voté l'ensemble des résolutions de l'ONU sanctionnant la Corée du Nord depuis 2006. Toutefois, elle a bien évidemment cherché à atténuer les sanctions qu'entraînaient ces résolutions. Moi, je ne vois pas d'évolution notable de la politique étrangère de la Chine vis-à-vis de la Corée du Nord. On en a beaucoup parlé en 2013, suite à l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, et également celle de la présidente Park Geun-hye en Corée du Sud. À l'époque, à Séoul, tout le monde se réjouissait d'un changement de politique, de la politique de la Chine. Mais c'est, à mes yeux, avant tout du wishful thinking, plus qu'une évolution véritable. Il y a ne serait-ce que 6 mois, on parlait que et on estimait que la Chine se rapprochait de la Corée du Nord vis-à-vis, en critiquant et vis-à-vis du THAAD sud-coréen et américain. Aujourd'hui, on nous explique que la Chine aurait retourné sa veste et commencerait à sanctionner la Corée du Nord. Les sanctions actuelles visant la Corée du Nord ont été renforcées, mais sont dans la continuité de celles qui ont été votées en 2016. C'est-à-dire que les sanctions économiques ont été initiées en 2016, dans 2 temps, avec premièrement une interdiction des exportations de certains minerais et une interdiction des exportations de charbon hors raison humanitaire. Elles ont été durcies au mois de novembre en donnant un plafond aux exportations nord-coréennes de charbon, notamment vers la Chine. Et puis elles ont été encore renforcées il y a quelques jours en interdisant tout simplement les exportations de matières premières minérales nord-coréennes, mais aussi de produits issus de la pêche, vers le reste de la communauté internationale, et au premier rang desquels la Chine, puisque la Chine représentait en 2016 92,5% du commerce extérieur de la Corée du Nord.
Vous êtes en train de nous dire, Antoine Bondaz, que ce sont des sanctions qui sont finalement significatives, qu'elles sont assez sévères?
Alors, elles se renforcent, bien évidemment, mais elles se renforcent progressivement en fonction de l'avancée du programme nucléaire et balistique nord-coréen. Est-ce que pour autant ces sanctions sont suffisantes pour pousser et forcer la Corée du Nord à se dénucléariser? Clairement pas. Et aujourd'hui, tout dépend de leur mise en œuvre par la Chine. Et la Chine, dans le cadre de la mise en œuvre de ces sanctions, est le pays incontournable.
Alice Ekman, vous êtes également spécialiste de la Chine. Comment est-ce que vous voyez la position de cette grande puissance voisine de la Corée du Nord? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une petite évolution, ou est-ce que la Chine continue quelque part d'essayer de maintenir un statu quo en Corée du Nord?
Alors, c'est sûr que la Chine critique envers la Corée du Nord ces derniers temps, mais elle est aussi toujours très critique envers la Corée du Sud, notamment envers vis-à-vis du bouclier, du déploiement du bouclier antimissile SAD. Et donc c'est vraiment aussi cette mise en contexte qui est à prendre en compte, c'est-à-dire que la Chine aujourd'hui continue à exercer des pressions économiques et diplomatiques sur la Corée du Sud, avec pour objectif le retrait de ce bouclier antimissile soutenu par les États-Unis. Donc, le retrait qui est peu probable, mais la Chine agit toujours dans cet objectif. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la Chine est à la fois, on va dire, insatisfaite du comportement de la Corée du Nord, mais aussi insatisfaite du comportement de la Corée du Sud, dans un contexte régional plus large où, à long terme, elle espère développer une nouvelle architecture en Asie-Pacifique qui ne soit plus basée sur le système d'alliance américain. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le livre blanc sur la coopération de sécurité en Asie qui a été publié en janvier dernier. Donc, c'est un objectif chinois de long terme, qui est 2050, mais je pense qu'il faut analyser l'approche chinoise de la péninsule coréenne en prenant en compte cet objectif de long terme. C'est-à-dire, de quelle façon certains développements en Corée du Nord ou en Corée du Sud confirment ou posent des obstacles à la stratégie chinoise de long terme d'établir, de restructurer la région Asie-Pacifique tout simplement, et, il faut le dire, d'éroder le système d'alliance américain. Donc c'est vraiment, je pense, une position ambiguë que la Chine n'assume pas toujours dans sa communication, mais qu'il faut prendre en compte aujourd'hui en analysant à la fois son approche et sa communication vis-à-vis de la Corée du Nord, mais aussi de la Corée du Sud.
Une position ambiguë, c'est vrai que c'est souvent ainsi qu'on définit la position chinoise envers le régime nord-coréen. François Godemont, en quoi l'existence de la Corée du Nord reste encore pour la Chine un atout, une carte à jouer quelque part dans ses propres relations avec l'Occident, avec les États-Unis en particulier?
D'abord, c'est l'ancien allié et quand même le résultat de l'armistice de la guerre de Corée qui a divisé la péninsule. Mais là, aucun voisin de la région n'est enthousiaste à voir une Corée réunifiée, il faut le dire, pas plus le Japon et peut-être même pas les Russes. Au-delà de ça, depuis 1991, parce que la crise nucléaire dure depuis 1991, ça a été un excellent outil de valorisation du rôle de la Chine par rapport aux États-Unis. La Chine qui se dispute sur tant de sujets pouvait dire là on va jouer un rôle, on est messieurs bons offices.
Rôle de médiateur.
On tire par les cheveux, si j'ose dire, les Nord-Coréens jusqu'à la table de négociation. Éventuellement on applique des sanctions. Donc de ce point de vue-là, il y a eu une valorisation de la diplomatie régionale chinoise. Au-delà, je crois qu'il faut simplement dire que la Corée du Nord est le pire des systèmes pour la Chine à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire qu'on est dans le prévisible, on est dans la stabilité. Il n'y a absolument aucune relation d'amitié, entre guillemets, si tant est que ça puisse exister, entre les deux régimes. Kim Jong-un a purgé les pro-chinois de nouveau, à commencer par son oncle, qui était généralement considéré, conseillé par les gens de Pékin comme le prototype des gens sages et âgés qui devaient aider un petit jeune, si vous voulez. Lui n'a pas attendu. Mais elle se trouve devant une situation nouvelle, c'est que l'administration Trump fait peut-être pression sur elle par des instruments nouveaux. Et une question qui est en l'air aujourd'hui, c'est dans quelle mesure le changement de politique commerciale des États-Unis vis-à-vis de la Chine pourrait être lié au dossier nord-coréen. Trump a fait le lien directement par les tweets. Aucun des représentants commerciaux des États-Unis ne valide ce lien. A priori, c'est sans rapport. Néanmoins, vous pouvez observer que la presse américaine a littéralement débordé de révélations et de fuites sur les sanctions commerciales à venir sur la Chine pour de tout autre sujet. 24 heures avant que le ministère des Affaires étrangères chinois n'annonce que la Chine allait effectivement mettre en activité dès le lendemain les sanctions votées à l'ONU. Et c'est le lendemain de la décision de la Chine que Kim Jong-un a mis les essais balistiques en pause. Alors la chronologie, c'est pas tout dans l'histoire. On n'a pas les coulisses. Mais c'est quand même important.
Donc l'idée derrière cette stratégie, ce serait, si je vous comprends bien, faire pression sur la Chine pour que, quelque part, elle prenne aussi une place plus grande auprès de la Corée du Nord. Antoine Bondaz, sur cette idée-là?
C'était déjà l'objectif de George Bush Jr. et de Barack Obama d'impliquer davantage la Chine. Ce qui était, comme l'a rappelé le professeur Godemont, un cadeau inespéré pour la Chine qui est apparue comme la médiatrice des pourparlers assises qui hébergeait ces négociations multilatérales. Trump est arrivé au pouvoir et en braquant la Chine sur trois dossiers, la question de la péninsule coréenne, la question de Taïwan et la question de la mer de Chine méridionale. Il s'est surtout, depuis plusieurs mois, concentré sur la question de la péninsule coréenne, effectivement en liant d'une certaine façon les questions économiques aux questions nord-coréennes. Est-ce que la Chine craint des sanctions économiques et des sanctions commerciales américaines? Très certainement. Ça peut expliquer aussi peut-être la rapidité avec laquelle la Chine a adopté, non pas dans ses textes de loi nationales, mais en tout cas les sanctions et la résolution au sein de l'ONU, puisque généralement on avait mis pour la dernière résolution plusieurs mois pour l'adopter. Là, ça a pris seulement quelques semaines, puisqu'il y avait aussi la crainte que les États-Unis fassent des sanctions secondaires sur des entreprises chinoises qui, notamment, faisaient du commerce avec la Corée du Nord ou hébergeaient des institutions financières nord-coréennes. Et donc c'est vrai que peut-être que Trump, même s'il est extrêmement critiqué, a peut-être réussi sur ce point-là à peut-être pas faire changer la politique chinoise, mais en tout cas accélérer la réaction de la Chine et à accélérer la volonté de la Chine de prendre ces sanctions et de les mettre en œuvre.
Alors, quand bien même la Chine accélérerait ces sanctions auprès de la Corée du Nord, quel est son réel pouvoir d'influence et de contrainte sur la Corée du Nord? Est-ce que des fois, on ne surestime peut-être pas un petit peu le pouvoir de la Chine sur la Corée du Nord, François Gonnement?
Pour moi, la question de la volonté et de la capacité ont toujours été mélangées. C'est très difficile de les distinguer. Ce qui suffit à la Chine de couper le robinet du pétrole, par exemple, pour mettre la Corée du Nord par terre. C'est très simple, il suffit de couper un pipeline. Elle ne le fera pas, visiblement. D'ailleurs, même dans les sanctions de début août, ce point ne figure pas. À l'inverse, le régime du Nord ne vit pas d'air, sa classe dirigeante ne vit pas d'air, son establishment militaire et stratégique ne vit pas d'air. Si vraiment les États-Unis et les autres obtiennent que la Chine et la Russie appliquent des sanctions qui réduisent de plus d'un milliard de dollars les exportations nord-coréennes, c'est un coup sérieux. Alors, c'est sans doute pour ça que Kim Jong-un a mis ses essais en pause. Et ce qui l'escompte, évidemment, c'est que la Chine suspend immédiatement, de façon pratique, si vous voulez, ces sanctions, même si elle ne l'annonce pas. Ça s'est déjà produit dans le passé, notamment autour des exportations de charbon. Je m'excuse d'être très concret, mais ce régime n'est pas un régime très sophistiqué. Il n'a pas quantité de produits d'exportation. Par contre, c'est un grand pays minier. Il l'était déjà au début de la guerre de Corée, après la Deuxième Guerre mondiale. Et il le reste aujourd'hui. Donc on est là dans le nœud du problème. Et je pense que entre des sanctions par elles-mêmes inefficaces sur la Corée du Nord et le conflit direct, possible mais au coût incalculable, l'administration Trump essaye une politique qui consiste non pas à persuader la Chine, mais véritablement
mais
à la forcer, à la contraindre par des moyens indirects. L'inconvénient, c'est que ça fait de la politique commerciale américaine, dont dépendent tous les citoyens américains pour leur bien-être, un otage d'un objectif stratégique régional. Et ça ne pourra peut-être pas durer extraordinairement longtemps.
Alice Ekman, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait replacer les relations entre la Chine et la Corée du Nord aussi dans leur contexte régional. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en Asie, il y a quelque part une ligne de fracture entre les pays très alliés des États-Unis comme la Corée du Sud qui veulent un contrôle plus ferme de la Corée du Nord et puis les autres, on va dire, ceux que son existence ne dérange pas, voire arrange?
Oui, mais il faut aussi rappeler qu'il existe des tensions entre les alliés des États-Unis en Asie du Nord-Est et je pense bien sûr aux dissonances réelles qui existent entre la Corée du Sud et le Japon. Vraiment, les tensions, on va dire les divergences de point de vue sont fortes et la volonté de l'administration actuelle de revoir l'accord entre la Corée du Sud et le Japon sur les esclaves sexuels, qui a été signé par la précédente administration en décembre 2015 et avec l'aide des États-Unis pour essayer finalement d'apaiser et de stabiliser l'alliance américaine en Asie du Nord-Est. Aujourd'hui, elle est remise en question avec donc la volonté de cette nouvelle administration. Donc il y a plusieurs points de divergence. Il y a des points de divergence entre les alliés américains d'une part et d'autres pays, notamment en premier lieu la Chine, mais également au sein même des alliés des États-Unis dans la région. Donc c'est très compliqué.
Très compliqué, eh bien ce sera les mots de la fin pour cette émission. Merci infiniment à tous les trois d'y avoir participé. François Gaudement, Antoine Bondaz, Alice Ekman, encore à nouveau un grand merci. Je rappelle que vous intervenez depuis Séoul où il est à peu près 1h du matin. Les références, les ouvrages, les liens, les infos, mais aussi la réécoute de cette émission et de toutes les autres, eh bien c'est comme toujours sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Du Grain à Moudre d'été, une émission préparée par Philippine Lebray, Juliette Montilly, Pierre Testard, Cédric Fuentes et Isolde Sicard. Réalisation Romain Masson, prise de son Anthony Thomasson, droit d'auteur Victor Buton.
C'est l'été sur France Culture.
Vous avez entre 18 et 30 ans. Vous aimez lire, critiquer et partager autour d'un livre? Devenez juré du roman des étudiants France Culture Télérama en envoyant une critique du dernier livre que vous avez lu avant le 8 octobre 2017 à communication@telerama.fr. Règlement du prix et informations disponibles sur franceculture.fr avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de l'Innovation.
Les penseurs nous aident-ils à penser, ouvrir une porte, à mieux comprendre en quoi et pourquoi ? Exercice d'admiration, cet été, de grandes voix de France Culture ou de la connaissance se prêtent au jeu. Qui connaît Virginia Woolf ? Geneviève Brisac nous fait découvrir une autre écrivaine, autre femme. Insolente, combattante, joueuse, polyglotte, défenseur des animaux, férue de psychanalyse et pistolière hors pair. Avoir raison avec Virginia Woolf, du 14 au 18 août à midi et sur franceculture.fr. En partenariat avec Philosophie Magazine.
Un petit mot pour vous dire que demain, dans les matins de France Culture, Lucas Manget reviendra sur les rapports troubles entre Donald Trump et l'extrême droite américaine. C'est donc demain dès 7h40. Et quant au grain à moudre d'été, on se retrouve aussi demain, 18h15, pour parler du rapport des jeunes à la culture.